Salut, c'est Alexis et vous écoutez le podcast de Contournement sur les technologies no-code. Chaque semaine, on part à la rencontre des gens qui font cet écosystème et qui nous proposent des nouveaux projets toujours plus passionnants les uns après les autres. Cette semaine, je reçois Léry Jiquel, co-animateur chez Betagouv, l'incubateur des startups d'État. Alors si vous n'en avez jamais entendu parler, vous risquez d'être vraiment impressionné par la qualité de cette démarche dans le lancement de startups. En plus, Léry explique tout ça super bien avec beaucoup de pédagogie, et évidemment, il y a du no-code dedans. Allez, je vous laisse découvrir tout ça tout de suite. Bonjour Léry, bienvenue sur le podcast de Contournement. Donc on a fait connaissance via la communauté NoCode France, via le Slack, que tu avais rejoint en même temps qu'un certain nombre de gens de Betagouv. Je crois qu'il y a eu un jour où vous êtes arrivés à plusieurs et une petite invasion, mais c'était hyper intéressant de voir que le NoCode s'immisce aussi dans le secteur public, puisque c'est bien ça dont fait partie Betagouv. Tu vas nous expliquer tout ça, évidemment. Bon, je savais déjà qu'il y avait un petit peu de no-code chez vous, parce que Dominique, chez Octo, nous en avait parlé, ses interventions. Voilà, donc d'ailleurs, je le salue au passage, et puis on parlera de tout ça avec lui dans un épisode dédié sur le podcast. Voilà, ça me tenait à cœur qu'on parle vraiment de sujets, donc je suis content que tu sois là. En plus, dans notre échange un petit peu en amont, j'ai vu que tu savais faire preuve de beaucoup de pédagogie, donc ça, c'est important pour nous. Parce que tu as un challenge aujourd'hui, c'est d'arriver à m'expliquer à moi, bon, et aux auditeurs aussi, clairement, simplement, un peu ce que c'est Betagouv, mais aussi Etalab, Datagouv, EIG, tout ça. Bon, t'es pas obligé de tout expliquer, peut-être pas tout, hein, mais en tout cas qu'on comprenne, parce qu'en fait, tout ce volet numérique, j'ai envie de dire, du travail de l'État, finalement, j'ai l'impression que beaucoup de gens passent à côté. En tout cas, enfin, on n'est pas au courant, il se passe plein de choses, et moi, comme j'ai un petit peu vu quand même ce qui s'y passe, j'ai trouvé ça hyper intéressant, de manière méthodologique, enfin voilà, toutes ces startups d'État incubées, enfin, il y a des choses super, il y a peut-être des choses dont on entendra plus parler plus tard aussi, le temps qu'elles prennent du volume, mais voilà, donc j'aimerais bien que tu nous racontes tout ça, que les gens découvrent ça. Et puis, évidemment, on va voir un petit peu comment le no-code s'insère là-dedans, hein, parce que moi, je vois bien quel peut être l'intérêt. Et je suis curieux de savoir comment le no-code est arrivé, pourquoi, qu'est-ce que vous allez en faire, quel est l'impact de ça. Je pense que ça va être assez multiple. Enfin voilà, donc il y a plein de choses. Voilà, on devrait pas s'ennuyer. Est-ce que, pour bien commencer, est-ce que tu peux te présenter ?
Bien sûr, merci pour l'invitation. Moi, c'est Léry Jiquel, je suis co-animateur au sein du programme Betagouv, qui est un programme de la Direction interministérielle du numérique. Et avant ça, je travaillais à la Cour des comptes. C'est une très vieille institution française qui a pour mission de contrôler le bon emploi de l'argent public. Donc, ça n'a rien à voir ni avec le no-code ni avec le numérique, mais je pourrais expliquer le lien entre les deux. Et accessoirement, j'ai une passion pour les vélos d'occasion. Donc, j'ai un blog sur le sujet et je teste pas mal d'outils no-code pour aider ceux qui cherchent des vélos d'occasion.
Donc ça te fait un petit terrain de jeu pour expérimenter. On va voir s'il y a des choses que tu as expérimentées, peut-être que tu as ramené après.
Exactement.
Juste pour savoir très rapidement, mais qu'est-ce qui t'a amené dans la fonction publique, enfin, ton parcours, est-ce que tu as a priori, on n'a pas l'impression que tu as un parcours vraiment technique, mais enfin, en tout cas dans le technique numérique, informatique, etc. Est-ce que tu veux nous dire
ouais,
deux
mots ? Oui, bien sûr. Il y a un fort déterminisme social chez moi. Mes parents sont fonctionnaires du ministère de la Justice. Et j'ai fait des études de droit et de sciences politiques. Donc jusque-là, plutôt logique. J'ai ensuite fait un stage à Bruxelles en lobby institutionnel auprès de la Fédération internationale de défense des droits de l'homme. Hyper passionnant sur les institutions européennes, mais très très loin du citoyen ou de l'usager, vraiment très loin. Quand on travaille de Bruxelles, c'est frustrant. Du coup, je me suis orienté dans la fonction publique territoriale. Donc en gros, c'est aller travailler dans les mairies, les départements, les régions. Et j'ai commencé comme ça à Chassieux, près de Lyon, une commune près de Lyon. Et j'ai fait ça pendant 3 ans. J'étais directeur adjoint de cette administration. Pour te donner un exemple, c'est un centre nautique, un aéroport, un golf. C'est 10 000 habitants, 4 écoles. Donc c'est pas un seul métier, c'est 350 métiers, il y avait 350 agents, et avec un enjeu politique fort, parce qu'il y a des élections. Et de là, j'ai rejoint la Cour des comptes après pour contrôler ce type d'organisme. Donc d'accord. Effectivement, j'ai absolument pas un parcours tech, mais ce qui n'empêche pas de monter en compétence rapidement sur ces sujets-là, depuis 5 ans.
Ouais. Et alors, peut-être justement sur cette montée en compétences, sur quoi elle t'a amené par exemple?
Ce qui s'est passé, pour être tout à fait transparent, c'est un ami à moi qui travaille dans le web marketing et qui m'explique qu'on peut créer un site internet hyper facilement. Moi j'étais plutôt adepte, tu vois, quand j'étais ado, Skyblog, tu vois, créer du contenu hyper facilement. Donc je sais pas si les plus jeunes savent ce qu'est Skyblog, mais je pense que ça n'existe plus.
Est-ce que c'est un ancêtre des outils no-code peut-être? On pourrait considérer ça.
Je pense qu'il y a un petit côté mettre du contenu en ligne sans savoir coder, c'était le début, ouais. Je pense effectivement. Et puis donc voilà, j'ai appris à faire un blog sur les vélos, parce que c'était un truc que je maîtrisais, c'était un sujet que je connaissais bien. Et de fil en aiguille, j'ai découvert les outils assez classiques de Google, en fait, Google Forms par exemple. Et c'est comme ça que voilà, j'ai découvert un peu cet environnement. Et puis en essayant par moi-même de résoudre des problèmes que j'avais pour ce blog, pour apporter des solutions, j'ai découvert plein d'autres sujets, Zapier, Airtable, Buffer et compagnie.
Ok, c'est souvent les side projects, j'ai envie de dire, qui peuvent être un bon endroit pour expérimenter et puis ramener ensuite tous ces outils dans un contexte plus peut-être un peu plus, je sais pas comment dire, institutionnel ou qui nécessite, où on peut pas forcément expérimenter quoi. Mais ce qui d'ailleurs n'est peut-être pas vrai justement avec Betagouv et tout, où je pense qu'il y a quand même la place pour l'expérimentation. Mais alors justement, rentrons un peu dans le vif du sujet. Explique-nous un peu ça. Donc toi, tu travailles à Betagouv aujourd'hui, qui est l'incubateur des startups d'État. Si je dis pas, les bons termes, tu pourras corriger. Et donc, tu es animateur.
Oui, je suis un des co-animateurs.
Co-animateurs.
Ouais.
Mais alors juste, moi, je suis curieux de... Enfin, je vous explique un peu la genèse, d'où ça vient, quoi, ce truc, d'où. Parce que bon, il n'y a pas toujours eu des startups dans l'absolu, il n'y a pas toujours eu des startups dans l'État.
Ouais.
Un peu, d'où ça vient, quoi.
Ouais, je vais définir peut-être ce qu'est Betagouv et ce qu'est une startup d'État, parce que ça facilitera aussi et ça évitera les confusions. Betagouv, c'est plusieurs choses. C'est une communauté, c'est près de 500 personnes aujourd'hui, qui travaillent dans des startups d'État. Betagouv, c'est aussi un programme interministériel, c'est-à-dire une volonté politique de transformer l'administration de l'intérieur. Betagouv, c'est une approche. C'est une approche qui repose sur trois principes assez proches des principes de l'agile. C'est les besoins des usagers avant ceux de l'administration. C'est l'amélioration continue plutôt que le suivi d'un plan. Et c'est l'autonomie des équipes. Et ces équipes, elles sont toujours composées de deux grands profils, un intrapreneur ou une intrapreneuse, traduction d'un entrepreneur mais au sein d'une administration qui connaît parfaitement son terrain, son réseau, le métier, et il va être accompagné d'experts du numérique qui peuvent être des développeurs, des coachs, des designers, des bizdevs, des designers, des data scientists, ça dépend, et ensemble, en autonomie, ils vont essayer de résoudre très concrètement dans la vie des gens les problèmes qu'ils rencontrent sur des politiques publiques différentes. Et c'est ça qu'on appelle une startup d'État.
Et tous ces gens-là font partie de la communauté, quoi.
Exactement.
Tous les intrapreneurs et les experts.
Ouais.
Et est-ce que, juste pour que les gens comprennent, c'est des gens qui sont tous salariés, qui sont d'où ils viennent, par exemple, les experts techniques
Alors, à Beta, tout ça est public sur notre site pour ceux que ça intéresse. Il y a trois typologies. Donc, tu as les agents publics qui représentent, la moitié ou un bon tiers de la communauté. Des indépendants, des freelances, qui travaillent comme experts, et aussi des salariés de boîtes de portage qui sont membres de la communauté également. C'est un peu cette typologie-là qu'on va retrouver au sein de la communauté.
Parce que vous pouvez faire appel, par exemple, si une startup a besoin d'un profil un peu particulier, ou d'un développeur, faire appel à des sociétés comme Octo, par exemple, où une personne va être déléguée, c'est ça?
C'est ça. Dans l'administration, quand on a des volumes d'achats importants, de prestations quelles qu'elles soient, on fait des marchés publics, et en l'occurrence là, Octo fait partie de ces entreprises qui ont répondu il y a quelques années et qui sont en capacité de nous proposer des experts quoi.
D'accord. Ok. Est-ce que tu peux nous donner quelques, avant de voir peut-être un peu d'où ça vient, parce que moi il y a un truc que j'ai du mal des fois à saisir, c'est le lien avec Etalab. Autre chose. Mais peut-être, est-ce que tu peux nous donner déjà quelques exemples très, très concrets?
Ouais. De start-up d'État?
Ouais, de start-up d'État, parce que tu disais donc que ça adresse des problèmes vraiment du quotidien, on va dire, un peu des citoyens, sur des politiques publiques.
Ouais.
Mais politique publique, qu'est-ce que ça veut dire, tu vois,
enfin, ouais, bien sûr. Je pense que, j'imagine, c'est une hypothèse, parmi tes auditeurs, tu as beaucoup d'auto-entrepreneurs, par exemple, ou des chefs d'entreprise.
Probablement.
Pas impossible. Une startup d'État qui cartonne, qui s'appelle monentreprise.fr, qui permet de réaliser plein de simulations en quelques clics pour ses besoins de micro-entreprise ou quand tu es chef d'entreprise, DRH. Typiquement, si tu veux mesurer les différences de salaire, si tu es entrepreneur, micro-entreprise, salarié, tu le sauras tout de suite. Pendant la crise, ils se sont hyper bien adaptés. L'équipe a proposé le simulateur de chômage partiel, par exemple. Donc, quand tu es salarié et que ton patron t'annonce ça, bah, tu as une information officielle qui te donne la réponse qui va bien selon le temps de travail, ton salaire et tout ça. Donc, c'est un exemple. C'est vraiment une super équipe avec un super produit. C'est porté par l'URSSAF.
Ça, d'ailleurs, voilà, comment ça a démarré?
Mon entreprise, je ne saurais pas te dire précisément, mais...
Mais à peu près, quoi. Ouais, enfin, ouais. C'est un cas un peu général, mais...
Ce qui se passe habituellement, c'est on va avoir deux profils. Soit un agent public tape à la porte de Beta et dit « voilà, j'ai une idée » ou « j'ai identifié un problème, j'ai besoin d'aide pour remonter ça ». Soit une administration vient nous voir, et on va appeler ça une commande politique par exemple, en disant « voilà, on a identifié un problème dans cette politique publique et donc on a besoin de vous pour nous aider à essayer de trouver des solutions rapidement et surtout qui marchent ». Donc on a deux niveaux d'acquisition, on va dire. Ensuite, on rentre dans une phase d'investigation. Le but, c'est d'identifier qu'on a un bon sponsor, donc une bonne administration avec une directrice ou un directeur de haut niveau qui a vraiment l'autorité sur son administration. Un agent public de terrain à qui on donne les clés du camion, on dit on te fait confiance. Et nous, on va associer un coach souvent. Et dans cette phase d'investigation qu'on appelle parfois discovery dans d'autres méthodes, on va se concentrer sur une chose en 9 semaines, c'est vérifier qu'on a un vrai problème. Donc réel, les personnes qui le vivent vraiment le vivent réellement, qui soit impactant, qui ait une valeur vraiment forte, qui ait un impact réel et qui soit actionnable. On va pas pouvoir changer la loi. C'est pas le but d'une startup d'État. Par contre, se rendre compte que des milliers de chefs d'entreprise galèrent à se demander combien coûte un licenciement, même si c'est quelque chose qu'on ne souhaite pas, mais qui arrive. Mmh. Bon, on va pas changer cette loi. Par contre, faire un simulateur où ils ont la bonne information tout de suite, ça a de la valeur pour eux tout de suite. Et ensuite, on passe dans une phase de construction, une fois qu'on a validé qu'il existe un vrai problème, pour développer rapidement et mettre en prod très très rapidement une première solution.
Et la solution, elle vient aussi de l'entrepreneur ? Est-ce que quand il arrive, il a déjà une idée de la solution ? Est-ce que, ou peut-être des hypothèses, ou est-ce que justement ça fait partie de la démarche de construire la solution ?
Moi, je l'ai vécu parce que j'étais intrapreneur à la Cour des comptes, et donc on arrive avec une idée de solution. Et tout le boulot, tout le job du coach et de la communauté bêta et des co-animateurs, c'est de les sortir de cette obsession de la solution qu'ils avaient, des biais qu'ils pouvaient avoir. Il est possible que la solution marche pour eux parce qu'eux avaient ce problème, mais si l'intra est le seul à avoir ce problème, ça n'a aucune valeur de mettre un euro d'argent public là-dedans. Et donc tout l'enjeu, c'est aller voir les utilisateurs finaux, aller voir les justiciables, aller voir les contribuables, aller voir les usagers, quelle que soit leur typologie, aller les voir avec une approche vraiment d'entretien, tu vois, semi-directif, où on ne va pas biaiser l'entretien pour récolter exactement les types d'informations qu'on souhaitait. Et je pense qu'aujourd'hui, je n'ai pas vu une investigation où l'intra avait une idée en tête et on est sorti de ça avec exactement ce qu'il avait en tête. Oui, son idée est vraie, oui, c'est un des problèmes, mais on se rend compte en faisant des entretiens, mais pas à 10 000, on en fait une dizaine, une cinquantaine, ça dépend, qu'il y a un plus gros problème, vraiment actionnable, rapidement, avec un plus fort impact, qu'on peut adresser très vite.
Et tu vois, c'est marrant parce que là, justement, ce que tu viens de décrire, je trouve que c'est exactement ce qui me fascine un peu dans tout ça, c'est-à-dire c'est vraiment j'ai l'impression, hein, une excellente application de ce que beaucoup de startups et startupeurs essayent de faire, souvent pas très bien, parce que ça nécessite une vraie méthodologie, tu vois. Enfin, après, j'ai peut-être un peu une obsession sur la méthodologie, mais vraiment, je trouve ça passionnant. Parce qu'on a tendance à trop parler de technique, des fois, pas que sur ce podcast, mais dans la vie, c'est la tech, etc. Mais trouver son marché, ses utilisateurs, cette phase de, comme disaient les startupeurs, voilà, de customer research, customer discovery, tous ces trucs. Enfin, je trouve ça, c'est souvent mal fait. Sauf dans les startups qui ont un peu de moyens, où ils prennent vraiment des experts. Mais toute cette démarche du UX, vraiment de recherche utilisateur, ça nécessite des gens qui sachent le faire. Il faut bien savoir le faire, quoi. Enfin, par exemple, chez Contournement, nous, c'est un truc qu'on fait pas très bien. Tu vois, on fait ça très intuitivement, alors que pourtant, on s'intéresse à tout ça. On a formé des gens là-dessus dans d'autres vies. Et voilà, tu vois, je trouve que ça, c'est vraiment... Je trouve que de ce que je comprends, chez Betagoo, il y a une démarche, quoi. Quelque chose qui est très... qui est formalisé. sans être, mais pas dans le mauvais sens du terme, parce que c'est un cadre souple comme l'est l'agilité, on va dire, en général, mais bien exécuté, quoi. Tu vois, enfin...
Alors, on essaye, on va rester très humble, hein, parce qu'on a aussi des produits qui marchent pas ou autre, mais on est plutôt content et assez fier de ça. Donc, paradoxalement, on va lancer, je sais pas moi, 50 investigations, donc 50 intrapreneurs qui vont chercher un problème, et moins on en a qui sortent en construction, plus on a réussi. C'est-à-dire que il serait pas normal que toutes les investigations aboutissent à une construction. Mmh. C'est comme des entrepreneurs dans le privé. Sauf que on aime bien tuer ce qui ne marche pas le plus vite possible. Pourquoi ? Parce que bêta, en fait, c'est un peu, d'après moi, alors là, c'est une définition tout à fait personnelle, c'est la fusion de trois cultures. C'est la culture startup, tu viens de l'expliquer pourquoi, avec vraiment cette approche. C'est la culture de, je crois, on pourrait dire, l'éducation populaire, c'est-à-dire vraiment, on essaye de faire en sorte que chaque membre puisse s'épanouir parce qu'on croit vraiment qu'ils seront meilleurs s'ils se sentent bien dans leur travail. La prise d'initiative est vraiment valorisée, on essaie d'être une communauté horizontale. Et enfin, c'est aussi la culture du service public, c'est-à-dire qu'on manie de l'argent public tous. Tous ces salaires, toutes ces prestations, c'est de l'argent public. Elle appartient ni à une administration ni à une autre. Tu payes la TVA, t'es contribuable, ça t'appartient. Donc on a cette obsession de pas faire n'importe quoi et accepter l'échec et même la valoriser le plus vite possible pour éviter
le gaspillage,
les tunnels sur se promettre que dans 3 ans on aura fait le cahier des charges et mis en ligne quelque chose. Ça marche pas, quoi. Enfin, et c'est le lien, tu vois, la Cour des comptes a publié un rapport en 2020 pour ceux que ça intéresse sur les projets numériques, et voilà, c'est documenté, c'est connu aujourd'hui.
J'imagine qu'en passant par la Cour des comptes, t'as forcément encore plus ce souci, peut-être, non, enfin ce cadre, je sais pas.
Oui, et puis je connais les pièges. Je comprends que c'est une erreur de penser qu'on peut être rationnel et listé dans un cahier des charges ou un backlog, parce que aujourd'hui on a des administrations qui nous disent on n'a pas besoin de vous, on a des backlogs, on fait du DevOps. Mais moi, ce que je leur demande, c'est allez où votre page stat, allez où votre page impact, parce que tout ça, c'est qu'un moyen pour l'utilisateur final, votre citoyen. Donc oui, je pense que je suis assez. Mais tout le monde a bêta à ce sens-là.
Non, mais c'est vraiment intéressant parce que je pense qu'on a beaucoup de préjugés. Enfin, il y a des choses, je pense, qui sont vraies, hein, malheureusement. Mais enfin, moi, pour avoir déjà répondu à des appels d'offres, je sais pas, refaire des sites de mairie, de trucs comme ça, tu vois, il y a quand même des dérives. Enfin, il y a des budgets immenses qui sont dépensés, des résultats qui sont pas toujours au niveau, des agences au passage qui se gavent un peu. Enfin voilà. Après, bon, là, je colporte un peu les préjugés qu'on peut avoir. Mais parce que je trouve que tout ça éclipse, tu vois, une partie, celle dont tu fais partie avec Betagoo, où, enfin, je veux dire, il y a une meilleure exécution et appréhension de toutes ces méthodologies dont les start-upers passent leur journée à discuter, mais pas vraiment à appliquer, quoi. Enfin, je veux pas tirer à boulet rouge non plus sur tous les start-upers, tu vois, mais... Enfin, je sais pas, pour avoir fréquenté quand même pas mal de meet-up, de start-up, de indie maker aussi, tout ça, les gens passent leur journée à parler de lean start-up, du X, etc., tu vois, mais après, il faut savoir bien le faire, quoi. Enfin, voilà, et donc, voilà, il faut pas croire que toutes les administrations sont que dans ces process à l'ancienne de appel d'offres, cahier des charges illisibles, de tunnels, de trucs qui sortent 10 ans après, qui sont pas... Enfin, de gâchis d'argent, quoi. Et voilà, bon, c'est... Enfin, j'étais là pour illustrer ça, justement, mais pas...
En tout cas, on essaye, et on essaie, mais aussi dans l'administration. C'est-à-dire que Beta, c'est un peu le réseau des incubateurs. Tu trouves un incubateur dans quasiment tous les ministères aujourd'hui. Soit ils sont en cours de démarrage, ils ont quelques startups Beta, soit ils sont plus installés avec déjà une routine plus importante. Et ce qui est hyper intéressant, c'est qu'on n'est pas dogmatique. L'approche dont je t'ai parlé, quand je te parle d'autonomie des équipes, une équipe qui me dirait « Ouais, non, moi, je vais plutôt faire comme ceci que comme cela », moi, ça me va du moment qu'il est focus sur l'impact réel de ce qu'il fait et personne ne lui reprochera d'avoir utilisé telle techno ou une autre. C'est vraiment pas ce qui compte.
Okay. Et toi, ton rôle plus précisément maintenant, donc on a compris que tu es passé par ce rôle d'intrapreneur. D'ailleurs, c'était quoi le sujet que...
C'était e-control. Je vais essayer de la pitcher. Ouais. C'est permettre aux auditeurs et aux audités de sortir la tête de l'eau des milliers de documents échangés durant des contrôles. Faut imaginer que quand t'es contrôlé, est-ce que je te souhaite pas, que ce soit par l'URSSAF ou autre, tu vas devoir utiliser une plateforme un peu archaïque où tu vas déposer des dizaines voire des centaines de documents les uns après les autres. Okay. Peut-être pas tous en même temps, t'auras plusieurs questionnaires et l'auditeur de son côté, l'auditeur, oui, il va va vouloir analyser tout ça, mais ce sera en vrac, ce sera pas trié. Et donc, en gros, on a juste automatisé un peu tout ce qui se faisait à la mano.
Okay. Améliorer l'interface, enfin... Bon, je dis l'interface, pas forcément visuelle, mais cet interfaçage entre...
L'histoire, c'est l'histoire d'un comptable dans une petite collectivité qui te dit, quand je réponds au contrôle, c'est qu'à partir de 20h. Ah bon, pourquoi? Quand on fait des entretiens, c'est vraiment surpris. Bah oui, mon réseau informatique ne permet pas de déposer autant de fichiers, sinon tous les agents de ma comptable, enfin de là où je bosse, n'auront pas suffisamment de réseau. C'est un peu naïf, mais c'est ce type de problème qui n'arrive pas qu'une fois, qu'on essaye de résoudre.
Ok. Et du coup, ça, cette mission, t'es allé jusqu'au bout? Comment ça se passe, le cycle justement de...
Donc le cycle d'une startup d'État, c'est investigation 9 semaines à peu près, construction, on va dire en moyenne 6 mois pour démontrer sur un premier périmètre qu'on a de l'impact réel. Et ensuite, on va passer dans une phase d'accélération. Soit on augmente sa zone géographique, on a commencé en Bourgogne-Franche-Comté, on va essayer de faire 12 autres régions par exemple, ou alors on va augmenter ou améliorer de nouvelles fonctionnalités pour résoudre de nouveaux problèmes. Alors, on ne va jamais créer des fonctionnalités pour créer des fonctionnalités, ça va de soi. Ce n'est pas le but. Donc, c'est cette phase d'accélération. Donc, moi, je suis allé jusqu'à cette phase-là. Et puis, la dernière, c'est une phase qui est plus complexe, plus dure, parce qu'on est un programme assez jeune, en fait. Ça fait que 6 ans qu'on existe, qui est la phase de transfert. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, cette petite équipe autonome et ce produit vont retourner dans leur administration d'origine à 100%, sans lien avec Betagoo. Et pour la pérenniser en quelque sorte, soit on la pérennise en continuant une sorte d'accélération, soit parfois il faut accepter qu'on a atteint un impact suffisant et qu'il faut juste continuer l'amélioration continue. Et moi, je suis allé jusqu'à cette phase-là. À la Cour des comptes, le produit continue de vivre là-bas. Et aujourd'hui, je suis co-animateur. Donc, pour répondre à ta question de c'est quoi mon job aujourd'hui de co-animateur, on va dire que j'ai 3 fonctions principales, 3 missions. La première, c'est répondre aux demandes des administrations qui souhaitent travailler avec nous et aussi être proactif, aller voir celles avec qui on pourrait travailler. La deuxième, c'est coacher les équipes pour vraiment les faire en sorte qu'elles soient toujours concentrées sur l'impact le plus possible et que ça se passe bien dans les équipes. Donc, je participe au recrutement, notamment de membres de chaque équipe. Et puis, la troisième mission, c'est animer une communauté. Et ça, c'est ce qui me passionne le plus, en fait, parce que c'est aussi un autre métier que la tech en général. Et c'est assez, assez cool.
Ok. Est-ce que, alors j'ai plus différentes questions qui me viennent. Juste, j'aimerais bien revenir sur, tu dis que ça fait que 6 ans. Comment c'est né ce truc-là, tu vois? Enfin, je veux dire que comment, justement, quelque chose comme ça d'innovant naît, enfin...
Alors, Betagoo, c'est né en 2015. C'est Henri Verdier et Pierre Pézziardi qui sont un peu les pères fondateurs. En tout cas, c'est comme ça que j'en parle et ils ont écrit un livre qui s'appelle L'État plateforme sur le sujet, pour ceux que ça intéresse, c'est disponible en ligne. Et ils ont commencé avec Datagoo, qui est cette plateforme qui donne accès à l'ensemble des données ouvertes publiques. Et donc ils ont créé une petite équipe autonome, ils ont commencé à coder et ils ont eu de l'impact, ils ont cherché à avoir de l'impact le plus rapidement possible. Et puis petit à petit, ça a essaimé et d'autres produits ont été créés au fil de l'eau, de manière très organique, pas du tout, il n'y a pas une stratégie, on va faire d'abord ça, puis ça. Et c'est comme ça qu'a essaimé Betagoo, et c'est une vanité métrique, parce qu'aujourd'hui, on a quasiment 100 startups d'État, ce qui ne veut rien dire sur leur impact réel, mais en tout cas, c'est un indicateur de croissance.
Du volume, en tout cas, ce que ça représente. D'accord, et donc, parce qu'en fait, il y a eu une étape, si je comprends bien, c'est, genre, ils l'ont fait, enfin, ouais, il y a eu Datagoo, et on s'est dit, la démarche qui a été appliquée, a été bien faite et on peut la formaliser un peu et la réappliquer après.
Ouais. Là, je le synthétise parce que j'ai peur de très vite rentrer dans du jargonnage administratif. Si je te parle du SGMAP, de la DITP, de la DINUM. Et donc, je pense que ce n'est pas le but. Mais oui, ça, on va dire que ça a commencé comme ça. Exactement.
Ok. Bon, ouais. Non, mais effectivement, je pense que c'est bien aussi de rester... Non, mais à ce moment-là, déjà, je suis curieux... Parce que c'est une problématique finalement que nous, on a dans l'animation de la communauté et puis que pas mal de gens ont, parce que finalement, aujourd'hui, les communautés, c'est un vrai sujet. Enfin, dans les startups, on parle beaucoup de community builder. Enfin, il y a plein de sujets, il y a des newsletters là-dessus, il y a plein de trucs. Est-ce que toi, c'est quoi ton expérience un peu de la construction d'une communauté, de l'animation? Est-ce que tu aurais des choses un peu à partager là-dessus?
Ouais.
Là, j'en profite pour prendre moi-même des...
Mais en fait, je pense que... Moi, j'ai commencé à bêta, on devait être peut-être... c'était il y a 3 ans, on devait être peut-être 200, ou 100, tu vois, je sais même plus combien on était, mais on n'était pas autant qu'aujourd'hui, et potentiellement j'avais plus de chances de connaître les gens avec qui j'interagissais sur le Slack qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, je crois que j'en connais pas la moitié en réalité. Et pour autant, chacun semble plus ou moins à l'aise avec ça. Ce qu'on a comme difficulté à Beta, c'est qu'on a les gens qu'on embarque, ils n'ont pas cette culture, cette trilogie de start-up, éducation populaire et service public. Soit c'est un agent public.
Ils peuvent avoir un des trois, quoi.
Exactement.
Peut-être deux au mieux.
Exactement. Exactement. Donc il y a un peu cet enjeu d'onboarding. Donc c'est ce qu'on fait aujourd'hui. On a vraiment formalisé depuis quasiment un an cet aspect-là. Tous ceux qui arrivent, on leur laisse le choix. On ne leur impose pas. Ça aussi, c'est toujours une doctrine chez nous. On n'inflige pas de l'aide aux membres de la communauté. Mais en tout cas, on leur offre cette possibilité pour avoir un panorama de c'est quoi BetaGoof, un peu ce qu'on fait là. Ensuite, depuis un an aussi, on a grossi, on a documenté. Et donc, c'est un de mes premiers outils de code que j'ai mis en place, c'est Gitbook.
Okay.
Qui est vraiment facile. C'est vraiment facile. On avait un wiki sur GitHub, par exemple. Pour un intrapreneur, même ça peut être compliqué, en fait, de rentrer juste ça. Hein. C'est pas forcément évident. GitHub peut faire peur.
Ouais. Tu vois, ça, c'est intéressant, d'ailleurs, parce que c'est là où on voit quand même. C'est vrai que c'est un outil no-code, hein, Gitbook, tu vois, mais on voit un petit peu aussi que, je pense, hein, après je peux résumer, mais une proximité quand même avec les développeurs, tu vois. C'est un outil quand même pas mal de développeurs, Gitbook, tu vois, c'est pas mal utilisé. Enfin, c'est un outil assez technique, c'est un super outil, et, tu vois, mais je pense que parce que vous avez beaucoup de gens, enfin, moi je connais aussi un peu les gens chez Octo, etc., tu vois, qui ont vraiment cette culture de la tech, pas de la tech d'ailleurs, mais vraiment, ils appellent ça le software craftsmanship, ce truc d'artisan du code, quoi, vraiment. Donc pour moi, ça. Donc voilà, j'imagine qu'il y a des choses aussi un peu qui se. Entre vous. Enfin voilà, non mais parce que. En fait, je dis ça aussi parce que je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens, là, dans les gens qui écoutent, tu vois, vraiment la communauté no-code, par exemple, qui évoque Gitbook. Et c'est un tort. Bon, je mettrai le lien, évidemment, dans les notes.
Oui.
Mais...
ceux qui aiment Glide, moi, par exemple, j'ai découvert que le Gitbook de Glide, c'est leur site de documentation. Il est juste nickel chrome, quoi. C'est un peu...
Mais en fait, je pense que plein de gens ne savent pas, tu vois, que les documentations qu'ils lisent, je pense que c'est le cas pour la documentation d'Adalo, je pense que c'est... Enfin, pour plusieurs, sont, en fait, faites avec Gitbook, quoi.
Et Cocorico, c'est français. Hein. C'est
lyonnais. Ah, ça, je savais pas.
Voilà.
OK.
Et... donc,
c'est un projet open source, hein. Non ou...
Je suis pas sûr. Hein.
Ah ouais?
Pas sûr. Je voudrais pas dire de bêtises, faut vérifier.
Bon, j'irai voir. Ok.
Donc, on les embarque, on trouve une documentation. On a une norme de conduite et une charte à Beta. Alors, le problème, c'est la rendre découvrable, hein, parce que c'est facile de l'écrire sur un mur, voilà, faut la connaître. Et puis, je pense que c'est aussi le rôle de quelques-uns à Beta, dont les co-animateurs, c'est le rôle de boussole. Faut accepter que quand on est 600 dans un Slack, on est plus de 3000 je crois sur le Slack de NoCode France, donc c'est encore une autre échelle, mais on n'arrivera pas à... On peut pas demander à chacun de trouver par soi-même l'information, donc on sait que, tiens voilà, tu es le co-animateur de telle équipe, t'as une demande, t'iras beaucoup plus vite à lui demander, c'est son rôle, de t'expliquer, de te dire tu trouveras l'info ici, ou faire comme ci ou comme cela. On a des rituels, ce qui est important chez nous, on a le stand-up tous les jeudis midi qui est ouvert au monde entier d'ailleurs. Qui permettent
je suis déjà venu d'ailleurs, c'est hyper intéressant. Ouais.
Le confinement nous a mis un peu ralenti, c'est-à-dire que tout se faisait en présentiel et ça générait une énergie. T'as connu ça dans une petite salle, on était vraiment nombreux et ça, voilà, c'était vraiment une super énergie. Le mode visio a un peu tué ça en réalité. On continue de le faire et chaque incubateur aussi crée les siens, donc ce qui éclate un peu les équipes, mais on a ça. Et puis on a ce qu'on appelle le grand séminaire. Qui est vraiment un forum ouvert, tous les 3 à 6 mois, ça dépend. Maintenant, on arrive à le faire en 100% distanciel. Et qui permet, c'est un moment où on accepte de venir, non pas pour travailler comme on le ferait d'habitude sur nos produits, mais pour discuter de la communauté. Et chacun est libre de proposer comment faire un gâteau au chocolat ou comment améliorer, comment on peut mieux expliquer ce qu'est BetaGoof ou qu'est-ce que le no-code ou tous les sujets qui peuvent être intéressants. C'est vraiment un forum ouvert. Et puis. Un truc qu'on a essayé de mettre en place, qui est difficile pour nous, c'est quand tu bosses dans une startup d'État, quel temps tu peux donner à la communauté ? On peut considérer que le fait déjà de documenter ton produit, de venir au stand-up pour raconter tes échecs, tes succès, tes besoins, si tu as besoin d'aide ou autre, c'est déjà très bien. Mais tu peux vouloir faire plus. Et l'idée n'est pas d'imposer à chacun de le faire, mais de leur dire « Ouais, c'est possible, tu es légitime. Ça fait que 2 semaines que tu es là, tu es légitime pour venir nous parler de ce qui t'intéresse, de venir partager ce que tu souhaites. Et donc là-dessus, on itère. C'est pas encore parfait, mais on itère. Donc moi, je prends 15 minutes toutes les semaines avec 5-6 personnes qui se sont inscrites dans un canal qui s'appelle Canal Engagement. Mmh. On a des bots sur Slack pour faire de l'acquisition sur ça et leur expliquer qu'ils sont légitimes. Et juste leur dire ça, ça ouvre des possibles. Voilà. Bah, pareil, on propose pas mal de formations à la communauté. Ça va de 2 heures de formation à une demi-heure, des cafés, apéros, enfin un peu tout ce qu'on peut imaginer.
Super. Non, c'est... Enfin, pareil, tu vois, je pense qu'on n'a pas vraiment la notion de l'existence de ça. Enfin, les deux, c'est hyper intéressant, quoi. C'est vraiment une gestion de... Enfin, community building, tu vois... vraiment bien faite, quoi, enfin de ce que je vois. Après, je pense qu'il y a aussi peut-être quelque chose qui aide, c'est d'avoir une bannière, entre guillemets. Enfin, d'ailleurs, c'est littéralement une bannière, celle du drapeau français, mais tu vois, il y a un côté aussi, je pense que les gens se sentent engagés quand même dans ce qu'ils font, quoi. Enfin, je sais pas,
ouais.
peut-être aussi plus fort que... Enfin, je sais pas pourquoi je veux pas comparer ça, d'ailleurs, spécialement avec No Code France, tu vois, mais être intéressé par le No Code, c'est bien, tu vois. Enfin... être impliqué dans une startup d'État, je pense que ça te donne un niveau aussi peut-être d'engagement, mais peut-être que tout le monde d'ailleurs ne le vit pas pareil, peut-être qu'il y a des gens, c'est un travail pour eux simplement.
Oui, oui. Il y a tout, on voit quand même qu'ils sont quand même pas mal engagés, hein, ceux qui viennent à Beta, et moi je veux aussi être vraiment, enfin vraiment dans l'humilité, je peux te partager les échecs, je pense que c'est intéressant aussi de qu'est-ce qui marche pas. On a une newsletter, une infolettre toutes les semaines, on essaye de la faire en bricolage, c'est-à-dire qu'on a un pad avec quelqu'un qui va renseigner les trous, tout le monde la renseigne en même temps. C'est difficile de trouver quelqu'un le jeudi matin qui dit voilà le lien vers l'infolettre, et puis quelqu'un le jeudi à 18h qui veut bien l'envoyer. On est le plus décentralisé ouais. possible, donc on se dit qu'à 600, on va bien trouver quelqu'un qui veut le faire. Donc ça, c'est dur.
C'est, d'ailleurs, tu n'avais pas posté un message là-dessus sur le Slack
si.
Où tu cherchais.
Ouais.
Et c'était quoi un peu l'idée? Tu as une idée comment tu pourrais justement. Automatiser ça, ou enfin le but, j'imagine, c'est pas complètement de l'automatiser, mais t'as de simplifier cette collaboration plus qu'un pad partagé, juste.
Ouais, bah, moi j'étais en veille. En l'occurrence, on a des devs transverses, donc des devs qui sont membres de la communauté et qui décident un jour par semaine ou un jour par mois de passer un peu de temps pour du dev pour nos outils d'administration collectif, on va dire. Et du coup, c'est quasiment toujours de l'open source. Donc je crois qu'ils sont en train d'itérer et de réfléchir à ça. Et on est un peu dans la logique que tant que tous les jeudis une infolette part, c'est qu'il est pas temps de... C'est encore trop tôt pour trouver une solution. Bon, c'est peut-être exagéré, mais tant qu'on n'est pas confronté au problème, je pense qu'il faut se concentrer sur les autres qui sont vraiment là. Un peu la doctrine chez nous. Et, ouais. et à un moment, ça va craquer, hein, quelqu'un va s'y mettre. Mais on fonctionne quand même pas mal comme ça.
C'est marrant parce que ça me fait penser à une image qu'on montre souvent dans nos webinars sur la productivité. Une image qu'Erwan avait trouvée, qu'il aime beaucoup. Enfin, moi aussi, c'est où c'est des hommes de Cro-Magnon qui tirent une charrette avec une. Il y a une roue et les roues sont carrées, quoi. Et donc, ils arrivent à la tirer, quoi. Et il y a un mec derrière, un autre préhistorique, quoi, qui arrive avec une roue ronde et leur dit, ouais, ça vous dit de changer, quoi. Et les autres, ils sont là, non, on n'a pas le temps. Tu vois, je dis pas que c'est votre cas, hein, mais du coup, nous, c'est vrai qu'on pense toujours à ça, ce côté, parce que même nous, on le fait, évidemment. On continue à utiliser des process, des choses avec lesquelles on est confortable. Parce qu'on ne veut pas avoir payé ce coût de la transition à quelque chose d'autre qui, en fait, nous ferait gagner du temps plus tard, quoi. Et c'est un peu ce truc-là, quel moment ça craque, quoi. C'est-à-dire, quel moment il y a quelqu'un qui en a marre de tirer la charrette avec les roues carrées et puis qui se dit, non, voilà, je peux plus, on va prendre le temps, on va s'arrêter, c'est pas grave, peut-être on va sauter une semaine, mais on va changer les roues et après, ça va être plus agréable, quoi. Et c'est pas toujours un gain de temps, d'ailleurs, c'est juste des fois une question d'utiliser un meilleur outil ou une meilleure manière de faire, quoi.
C'est vrai, c'est des choix à faire. C'est toujours des choix à faire entre changer une roue ou ajouter des freins. Ça dépend le chemin que tu vas prendre. Donc, c'est des questions qui se posent tous les jours. Un autre apprentissage, c'est ceux qui étaient là au début, qui ont connu une communauté où les gens se connaissaient, qui deviennent, où on se rend compte qu'on devient un peu anonyme. Ça aussi, ça peut être quelque chose de déceptif pour des membres, des gens qui étaient là depuis le début. Enfin, moi, je pense que ça s'explique, ça se comprend. Un autre problème, c'est la découvrabilité de tout ça, en fait. Quand tu arrives à bêta, c'est un rétexte qu'on nous fait souvent, quel que soit le profil, c'est ils se sentent pas préparés, en fait. On a beau leur dire, vous allez voir, ça va démarrer tout de suite. Enfin, on va pas passer 2 heures à faire un rétro-planning. Donc, ta première obsession, c'est parler à un utilisateur final, quoi. Et quand tu rentres dans bêta, bah, c'est pareil, tu vas avoir de l'information qui arrive de partout. Slack, c'est pas forcément Slack ou un autre, tu vois, c'est pas forcément des outils qui sont très communs dans l'administration. Donc pour les agents publics, c'est nouveau. On a une forte volonté de toujours parler en public parce qu'on pense que tous les apprentissages, toute discussion peut avoir de la valeur ajoutée, sauf évidemment des sujets RH ou très confidentiels de marché public ou autre. Et ça, c'est dur. C'est très dur pour un agent quelconque, même un dev qui n'a pas l'habitude.
Ah bah, les devs, en général, ils n'aiment pas trop. Voilà, je m'inclus là-dedans, hein, mais ça m'a pris longtemps hein, pour être à l'aise en public et je ne le suis pas vraiment, d'ailleurs.
C'est ça. Mais du coup, ça a un effet pervers, c'est qu'il y a une profusion d'échanges sur Slack qui peuvent paraître sans valeur ajoutée pour quelqu'un qui débarquerait dessus. Et de fil en aiguille, je pense que c'est partie de l'apprentissage. Les collègues se rendent compte de la valeur ajoutée.
Ok. Non, c'est bien aussi de partager un peu les limites et ce qui est difficile et comment les corriger. Vraiment sur le sujet du no-code, du coup, venons-en un peu à ça. Qu'est-ce que tu as comme exemple? Enfin, qu'est-ce que tu veux nous partager un peu justement de ce qui se fait
Alors, on a, je pense que je vais commencer par les BizDev, donc les chargés de déploiement à bêta. C'est une communauté dont Shaib Martinez est un peu notre gros hacker maison. Donc c'est nouveau aussi, hein, toutes ces expressions-là à bêta.
Oui, parce que quand tu me dis BizDev, dans un contexte de startup d'État, vous ne faites pas vraiment du business, quoi.
Alors, ok.
Cela dit, ça peut dépendre peut-être des startups.
Non, on fait zéro chiffre d'affaires dans aucune startup d'État. Les startups d'État n'ont aucune... Enfin, c'est faux ce que je dis. On a des startups d'État qui sont devenues des entités plus ou moins de droit privé ou semi-privé public. Je pense à PIX qui permet de certifier les compétences numériques. Tous tes auditeurs qui sont au lycée ou qui sortent de fac, là, ont tous été certifiés avec cet outil. Et moi, j'ai connu autre chose à la fac il y a plus de 10 ans et c'était le cauchemar. Donc vraiment, c'est un plus. Il y a... Le Pass Culture aussi, pour les plus jeunes, qui est devenu une société mixte, je crois. Ou en tout cas, une société statut particulier. Mais les startups d'État n'ont pas vocation à être des boîtes du privé, clairement pas.
Et donc, c'est quoi le rôle d'un BizDev?
Le BizDev, c'est appliquer les métriques pirates. C'est-à-dire faire de l'acquisition. Parce que c'est pas tout d'avoir une bonne solution. Tu peux avoir la meilleure... On aime bien dire qu'une solution doit être utile et utilisable. On peut démontrer qu'elle est utile, mais elle sera utilisable que lorsqu'on aura des utilisateurs. On pourrait considérer que c'est facile, on est l'administration, on rend obligatoire l'usage de telle solution. Voilà, vous n'avez pas le choix. Et en vrai, c'est notre fierté, c'est de se dire qu'on arrive à démontrer et avoir de l'attraction sur des usagers sans rendre une solution obligatoire. Juste parce qu'elle démontre sa valeur et donc ils reviennent et donc ils en parlent et donc ils la recommandent. C'est la même approche qu'à une boîte du privé, c'est une traction naturelle, sauf que nos usagers ne payent pas directement pour ça, et entre guillemets, on pourrait considérer qu'ils le payent via l'impôt, mais c'est ça leur rôle. Donc on ne va pas avoir cette partie rétention, potentiellement, c'est pas trop ce qu'on cherche, parce qu'on n'a pas, ce besoin-là, mais donc au contraire, on va essayer qu'ils utilisent notre service le plus rapidement possible, donc qu'ils le découvrent, donc c'est ça aussi leur boulot, qu'ils activent ces usagers sur le service, les différents services qu'on propose. C'est aussi d'aller chercher d'autres administrations. On a des produits qui peuvent être utilisés par plusieurs administrations. C'est elles, finalement, nos clients, donc entre guillemets. Et c'est leurs usagers qui vont être nos utilisateurs. Donc, c'est ça leur fonction. Et donc, pour ça, ils utilisent plein de solutions d'automatisation pour envoyer des mails, pour gérer leurs contacts, pour gérer les webinaires qu'ils organisent. Donc, Airtable va être pas mal utilisé, Zapier aussi. Je pense que Typeform est probablement l'outil le plus utilisé, notamment en démarrage. On a des équipes, ça c'est assez cool, qui... En gros, tu sors de la phase d'investigation, donc tu as confirmé que tu as un problème, tu as une stratégie, et en deux semaines à un mois, tu dois avoir une solution en ligne. Tu dois avoir quelque chose utile et utilisable, même si c'est un tout petit périmètre, tu dois pouvoir le faire. Et pas mal d'équipes démarrent avec une landing page lambda, un bouton et derrière t'as un typeform et en réalité c'est de la conciergerie, t'as un humain derrière qui va traiter l'information, qui va rendre du service parce qu'on va vraiment rendre du service avec ça et démontrer que du coup si on automatise, si on crée une couche supplémentaire de dev, on va pouvoir augmenter encore plus le nombre de bénéficiaires en fait de ce service là.
C'est intéressant que ce que tu viens de dire, cette stack entre guillemets de landing page plus typeform, c'est un moyen super de démarrer n'importe quel projet. On voit ça beaucoup aussi. J'allais dire dans les startups, c'est pas là, on est vraiment au stade avant la startup, quoi. C'est-à-dire vraiment, t'as une idée, tu veux la tester. Non, c'est marrant parce qu'en plus, bon, au moment, la semaine où va sortir cet épisode, normalement, c'est la semaine aussi où on sortira notre formation à Typeform. Okay. Une petite formation à Typeform qu'on a fait, donc c'est bien, ça illustre aussi. Et je pense qu'ils seront très contents de savoir que vous faites aussi des choses, que vous les utilisez, ce qui ne m'étonne pas. Mais c'est vrai que c'est un super outil, tu vois. Pourtant, ce qui est marrant, c'est qu'il y en a pas mal d'autres, des outils de formulaire, mais celui-là reste un peu incontournable, quoi.
Chez nous, il n'est pas obligatoire. Enfin, clairement, tu as des équipes qui vont l'utiliser, d'autres qui sont plus à l'aise avec Google Form. Ou on a aussi, je pense qu'on peut appeler ça notre outil no-code maison de l'administration. C'est démarche simplifiée.
Okay.
C'est une startup d'État qui est aujourd'hui voilà, en hyper-accélération, qui permet à un agent public... En gros, enfin, je ne sais pas si c'est une bonne comparaison, je pense que l'intrapreneur va m'en vouloir, mais c'est un form avec un système d'instruction derrière, qui est très facile d'usage pour la personne qui doit déposer. Par exemple, demain, tu veux bénéficier d'une subvention X ou Y, ta boîte, la préfecture d'Île-de-France va proposer cet outil-là, tu vas t'inscrire avec soit France Connect, tu vois, avec ton identifiant, machin, et tu vas pouvoir déposer, répondre à un certain nombre de questions. Et un instructeur, un agent public, va pouvoir regarder ce que tu as répondu et te répondre dans le même outil. Là, il manque un document. Au lieu de te dire « rendez-vous au guichet 404 », on se rend compte que tu n'as pas les bons papiers, rentre chez toi, reprends un rendez-vous dans 3 mois. Bon, bref, ce n'est pas possible. Et en plus de ça, l'instructeur peut aussi demander à un expert de jeter un coup d'œil parce qu'on a besoin d'aide. Donc, tout ça simplifie. Et il y a une API dedans. Donc, ça permet de parler avec n'importe quel autre...
Et donc, tu dis que c'est un outil no-code maison dans le sens où cet outil, une administration peut l'utiliser pour créer son formulaire de demande. Par exemple, demande de subvention, mais moi, si je suis une autre administration et que je veux faire un formulaire de, je sais pas, j'ai même pas d'idée qui me vient.
Ouais, structure de permis de conduire, de construction quelconque, ouais, une mairie.
Pour mes permis de construire, ouais. Voilà, dans ma commune, je peux utiliser ça, un peu comme, je vais pas le faire avec Typeform, évidemment.
C'est pareil.
Je pourrais utiliser ça. D'accord, c'est intéressant.
Exactement.
Ok, et donc en fait, bah, du coup, plein de gens l'utilisent, enfin, côté citoyen, utilisateur final, l'utilise régulièrement
sans s'en rendre compte. Exactement. Voilà. Et le code source est ouvert. Et aujourd'hui, on a l'association des collectivités territoriales qui a fait son fork, en quelque sorte, son propre repo, pour le monde des collectivités territoriales.
Ok, moi je mettrai le lien aussi, ça c'est intéressant comme démarche. Alors tout ça a été codé, j'imagine, ça c'est pour le coup, c'est des développeurs. Est-ce que tu as d'autres exemples? Je pensais à un truc, alors peut-être que Dominique du coup en parlera plus quand je le recevrai, mais lui il avait travaillé sur un projet où ils utilisaient Airtable en back-end je sais pas si tu vois...
Projet là je vois pas, c'était... mais on a des projets qui démarrent avec Airtable.
Pour le c'était par rapport au permis de conduire, pour les dates de passage de permis, un truc comme ça? Non, j'ai une bêtise.
Ouais. Non, c'est possible, mais j'ai pas suivi le projet.
Non, bon, je lui demanderai, mais il me semble que... Mais c'était un usage, on va dire, low-code, dans le sens où ça leur avait permis d'aller très vite. Ils avaient utilisé... Il y avait une équipe de développeurs, mais pour pas que les devs fassent un back-end, parce que c'était quelque chose qui devait sortir vite. Bon, de toute façon, on a compris maintenant, tu nous as bien expliqué la démarche, donc comme tout va vite pour tester. Je crois que c'était pour... Il y avait plein de problèmes pour réserver son permis de conduire, enfin, réserver la date de passage.
C'est Candilib. Le D'accord, produit s'appelle Candilib aujourd'hui.
Ok. Et maintenant, et apparemment, au début, il utilisait Airtable, voilà, pour pas avoir à coder un back-end. Et il y avait un front-end, par contre, lui, qui avait été développé. Et puis, parce que du coup, ça m'amène à une question, et je crois d'ailleurs que j'ai la réponse dans cet exemple-là. Mais sur ces outils no-code, après, peut-être tu pourras nous donner d'autres exemples. Mais est-ce qu'il n'y a pas des limites? Est-ce que vous n'avez pas des problèmes par rapport? C'est le sujet qui revient tout le temps, et je pense que les gens confondent un peu des choses. Donc là, je serais curieux d'avoir votre réponse. Par rapport au RGPD, par rapport aux données, aux États-Unis, etc. Par exemple, Typeform. Alors, c'est pas une société américaine, contrairement à ce que beaucoup de gens croient. C'est une société européenne, espagnole, il me semble. Est-ce que ça, par exemple, ça fait que ça vous aide à les utiliser? Je sais pas. Fin...
Oui. Alors, la doctrine, enfin, c'est pas la doctrine, c'est quel que soit l'outil utilisé, que ce soit du no-code ou que ce soit un hébergement OVH ou je ne sais. Enfin, la question se pose. L'ANSI, qui est l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information, avec Betagouv, il y a quelques années, je pense qu'ils sont en train de le refaire, a créé un guide de comment gérer la sécurité des systèmes d'information dans des produits agiles.
Okay.
Et donc, nous, on adopte la même logique. Et donc, quelle que soit la stack, quel que soit le type d'hébergement, la logique qui compte, c'est tu mets pas des CRS devant la boîte aux lettres de la CAF qui est au coin de la rue. Et pour autant, on doit sécuriser les courriers anonymisés et documents de santé dans cette boîte aux lettres. Non, tu adaptes ta sécurité à ton usage et où tu en es de ton produit. Donc, on va adapter exactement la même logique. On applique la loi de la même manière. Donc, ces questions se posent à chaque fois. Et de même pour l'accessibilité, parce que c'est un truc qu'on oublie parfois, mais c'est, enfin, genre, c'est fondamental aussi d'avoir des produits qui soient accessibles.
Ça, ça, pour le coup, il y a une loi d'ailleurs qui impose aux... Alors, je ne sais pas si vous c'est considéré comme ça, mais tous les sites, etc., de l'État doivent être accessibles au niveau 2. Alors, quand on parle d'accessibilité, pour les gens qui ne savent pas, forcément, on parle d'accessibilité numérique, c'est-à-dire pour les personnes en situation de handicap, il y a un certain nombre de normes à respecter pour les gens qui sont malvoyants, pour que la synthèse vocale fonctionne bien, etc. Est-ce que vous aussi, du coup, vous avez ça?
C'est un objectif pour nous, 2021, d'être le plus conforme possible sur ces sujets-là.
Okay.
C'est un objectif et c'est un c'est aussi un truc qu'on doit vraiment faire mieux, clairement.
Ouais. C'est une problématique qui perdure. Hein. Moi, je me souviens que quand je gérais une agence web, c'était un peu le sujet qui passait, sauf s'il y avait des exigences réglementaires. Bon, les gens, c'est, ah oui, bon, ça, on verra, quoi. Et si ça coûte plus cher, on le fait pas, quoi. Mm-hmm. Alors que, bon, ça, après, c'est un peu une problématique. Il y a beaucoup d'agences qui sont pas formées. Il faut que ça soit au cœur. Je veux dire, maintenant, on se demande plus si un site va être responsive, quoi. Je veux dire, ça, c'est de base. Et ça devrait être pareil avec l'accessibilité. Sauf que comme ça concerne moins de gens, bon, voilà, on retombe toujours dans le même travers, mais c'est un vrai sujet. Et c'est un vrai sujet dans le no-code, hein, d'ailleurs. Tu vois, je serais curieux de savoir, par exemple, si les formulaires Typeform sont parfaitement accessibles, tu vois, niveau 2, là, du...
Je peux te raconter une anecdote sur un... J'ai organisé un hackathon vélo, il y a quelques mois, en distanciel, 100% distanciel, avec deux amis. Et un des projets était de référencer tous les loueurs de vélos adaptés de France. Le porteur de projet est non-voyant. Il est présent d'une association de tandem. Et son sujet, c'était, moi, quand je pars en vacances, déjà dans le train, je ne peux pas mettre mon vélo, parce que c'est hyper compliqué aujourd'hui. Mmh. Et quand j'arrive quelque part en France, je ne sais pas où trouver un loueur de vélo adapté. Donc, on a utilisé Airtable pour faciliter les choses. Et on a testé. Je lui ai dit, bon, tu comprends que si on utilise Airtable, il faut qu'il soit accessible, parce que si toi, tu n'arrives pas à l'utiliser, c'est qu'on tape à côté. Donc, je ne peux pas dire la norme, mais c'est des sujets, on teste en fait. C'est un bon exemple, c'est de tester avec eux. Et sur l'accessibilité, donc on a testé le formulaire Airtable en l'occurrence et pour lui ça marchait.
Ouais.
Donc la partie en tout cas, il est totalement non voyant, donc la partie auditive, voilà. Donc ça fonctionnait bien pour lui.
Il faut distinguer deux choses. Hein. Il y a l'accessibilité du constructeur, j'ai envie de dire de l'interface, par exemple de Airtable, du back office d'Airtable, et puis l'interface et puis l'accessibilité de ce qui est produit, par exemple de la vue formulaire, etc. Et je crois que sur Typeform, enfin, je vais pas dire une bêtise parce mais je crois qu'on avait évoqué le sujet avec Nicolas quand je l'avais reçu et il me semble que le formulaire était, je pense, accessible. Enfin, en tout cas, c'est des niveaux. Hein, donc, mais par contre, clairement, quelqu'un qui était non-voyant pouvait pas construire lui-même un formulaire, quoi. Et c'est un sujet aussi chez Webflow, etc. Enfin, et les Américains sont assez portés sur ce sujet. Hein, ils essayent d'améliorer, mais souvent, t'as difficilement les deux, quoi. Je sais que chez Webflow, par exemple, ils améliorent l'accessibilité des sites qui sont produits avec Webflow. Mais je veux dire, concrètement, tu peux pas utiliser le builder si t'es non-voyant, quoi. Enfin, mais d'accord, mais cela dit c'est intéressant parce que c'est un vrai sujet, hein. Je sais pas, c'est vrai que nous on nous pose souvent les questions sur la sécurité, tu vois, par exemple là dans ce cas l'usage d'Airtable, le fait que ça soit aux États-Unis par exemple, ça vous a pas posé de problème techniquement pour utiliser Airtable pour ce projet?
Pour en tout cas pour ces équipes là non.
Ouais, ça dépend en fait, oui, peut-être après. Ouais,
les données de santé c'est impossible.
Ouais.
Aujourd'hui données de santé, voilà, c'est pas possible. Pour la chance qu'on a, on va dire, au sein de l'État, c'est qu'on a aussi, on n'est pas les seuls d'ailleurs, l'ANSSI fait des recommandations très claires sur les outils 100% hébergés en France, qui a un certain niveau de sécurité. On se catalogue, on y a accès, on regarde ce qui est le plus utilisable pour notre besoin et on le met en place. Et pareil, on essaye de sensibiliser les équipes à être le plus... ne récupérer que les données les plus essentielles. On n'a pas besoin de demander l'âge de ton utilisateur. Absolument, si ça ne sert à rien, quoi. Ok, tu peux te faire plaisir de faire un Typeform, prendre le template, mais en fait, tu n'as pas besoin. Donc...
Mais c'est souvent ça la problématique. Tu vois, c'est vrai que quand nous, les gens nous interrogent et nous... Tu vois, on a des discussions un peu... je ne sais pas, je trouve qu'ils se trompent de points, tu vois. C'est-à-dire que les gens, ils oublient qu'en fait, déjà, tu vas avoir moins de problèmes. Déjà, c'est juste de ne pas tout collecter, quoi. Enfin, tu vois, c'est pas obligé de tout traquer. Enfin, je dirais, j'ai même envie de dire, on devrait ne pas tout traquer, quoi. C'est devenu un peu une norme, mais en plus, enfin... Bon, enfin, c'est encore un autre débat, mais t'as vraiment raison de souligner ce point-là. Donc ça, c'est pareil, c'est une vraie sensibilisation à faire sur ce sujet, quoi. Mais c'est un sujet que j'ai envie de plus aborder. Je sais pas, ça sera peut-être un live sur Nos Codes France ou un truc comme ça. Et je pense que c'est aussi ce côté de sensibilisation important.
Et c'est pour revenir sur la question de la communauté, c'est aussi ce qui peut faire la force d'une communauté. Quelqu'un pose une question sur un channel, tu trouveras une réponse tout de suite. Et en l'occurrence, en plus à Beta, on a des experts entre guillemets du sujet qui vont pouvoir intervenir pour animer un atelier analyse des risques ou recommandations type d'hébergement. Et ça, on l'offre à toutes les équipes qui en ont besoin.
Et en plus, cette communauté, elle vous fait bénéficier de toute l'expérience de chaque startup.
Exactement.
Comme ces startups vont vite, itèrent vite, j'imagine que la quantité de connaissances est vraiment importante. Et c'est bien structuré pour la partager parce que, tu vois, quand tu es dans des groupes de startups, je sais pas, à Paris par exemple, tu vois que les gens, quand ils te partagent leurs bonnes expériences, leurs fails aussi, enfin, t'apprends énormément, mais sauf que c'est pas structuré, c'est pas une communauté homogène, c'est un peu. Puis c'est pas toujours. Il y a des gens qui sont à fond sur l'échange, d'autres moins. Or, vous, j'imagine que ça, c'est génial là-dessus, quoi.
Ouais, on n'a pas de problème de concurrence.
Ouais, voilà.
Enfin, il faut dire les choses. Personne. Ouais. On n'a pas ce problème-là, quoi.
Mais ceci étant dit, tu vois, enfin, je trouve que globalement, ce truc-là, en tout cas dans le milieu un peu des startups, est un peu passé aussi. Tu vois, cette époque où les gens ne voulaient pas te dire leur projet parce qu'ils avaient peur et tout. Bon, c'est un truc qui a été vachement rabâché, tu vois. Enfin, oui, tu vois, tu peux parler de ton projet, tu vois. Tu parles à un entrepreneur, lui, il a déjà ses projets, il ne va pas te voler ton idée, quoi. Ça a été pas mal rabâché, donc ça a changé. Donc, il y a des choses qui... Mais bon, tu as toujours un peu un angle, quoi. Tu as quand même...
Et ouais. Puis, c'est pas des produits en concurrence. On voit parfois sur Nos Codes France que quelqu'un demande une question, on te propose telle solution, et puis t'as le créateur de l'autre solution qui propose la sienne. Il est légitime à le faire, mais on n'a pas cette logique-là. On n'est pas soumis à ça.
Oui, vous êtes vraiment. Vous utilisez les outils. Est-ce que vous créez. De fait, ne peut pas rentrer en concurrence les uns entre les autres. Et la manière de faire. Enfin, on en revient toujours un peu à ça, mais je trouve que vous mutualisez toutes les connaissances dans cette manière de faire les choses, quoi. Et que ça soit sur la technique, sur la gestion de projet, sur la recherche utilisateur, je sais pas.
Sur des briques de code, un designer qui a participé sur un projet avec une typologie de public identique, il va réutiliser ses apprentissages pour une autre équipe. On fait pas mal de codev aussi. Ouais. Pour ceux qui nous écoutent, c'est des sortes d'ateliers ou de réunions, on pourrait dire, d'apprentissage entre pairs, qui est voilà, là aussi, il y a une approche, une méthode à suivre qui est assez simple et qui permet de rapidement partager des apprentissages utiles.
Après, je pense qu'il y a aussi... Moi, comme je n'ai jamais été dans un incubateur, je pense qu'il y a des choses que je rate un peu... peut-être qu'il y a des choses, là, tout ce que tu as évoqué, qui se retrouvent un peu, je ne sais pas, les gens qui sont incubés à Station F, par exemple, peut-être profitent un peu de choses comme ça. Mais je pense qu'encore une fois, il n'y a pas forcément le même engagement. Chacun est là pour sa boîte. Donc peut-être... Je sais que ils partagent, et puis évidemment à Station F ils organisent plein d'événements, etc. J'ai pas l'impression que ce soit aussi structuré que ce que tu dis là, quoi. Mais bon, encore une fois, après c'est pas le sujet de comparer tout. Forcément, moi je trouve ça super, en tout cas que tu nous partages ça, parce que ça, autant Station F, je sais que je pourrais avoir les réponses. Il y a plein de gens dans la communauté qui sont incubés là-bas. Autant voilà, là j'ai pas forcément le.
Et si vous avez des questions, enfin si tu as d'autres questions, parce que en fait nous on est très ouvert, on est très transparent sur ce qu'on fait. La plupart, on va dire 90% des startups d'État ont une page publique sur laquelle on peut voir leur impact réel sur des métriques qui sont normalement pas trop vanity. Il y en a toujours qui traînent, mais on essaye de corriger ça. On a un compte Twitter, on a un compte LinkedIn, on peut nous interroger, on sera avec plaisir pour y répondre. Donc,
on va mettre tous ces liens. Moi j'aimerais bien, ça se trouve peut-être, je sais pas, que quelqu'un écoute ça. Quand il y aura à nouveau vos meet-up, les stand-up du jeudi, c'est ça ?
Ouais, c'est jeudi même.
Qui aille, tu vois, que ça ait inspiré des gens d'aller voir un peu ce que vous faites. J'en serais très content en tout cas. On verra ça. On arrive un peu sur la fin. Du coup, je sais pas, est-ce que tu avais peut-être derniers exemples que tu voulais évoquer, ou sinon après j'ai quelques questions un peu plus sur ce que tu fais en no-code à côté, quoi.
Ouais, j'aimerais bien vous parler de Transport DataGouv. C'est une des premières startups d'État qui permet, qui partage en fait toutes les données de transport public et qui les rend réutilisables pour n'importe quel opérateur, public ou privé. Donc Google Maps les utilise, mais la petite start-up de covoiturage d'un département rural va aussi les utiliser. L'opérateur de transport public de Lyon ou de Marseille ou de je sais pas quelle collectivité va aussi les utiliser. Et ça, c'est invisible. C'est encore plus invisible pour le citoyen. Mais si depuis ton téléphone, quelle que soit ton application, tu peux décider d'aller du centre-ville de Dunkerque à la côte niçoise avec différents types de transports en commun, c'est grâce à ça. Et c'est une belle équipe qui est en phase de transfert, justement. Et voilà, c'est un autre exemple où on ne va pas être sur une politique publique qui va toucher les citoyens tout de suite, mais par l'effet plateforme, en fait, on va pouvoir le toucher.
Et ces données, par exemple, elles sont accessibles si moi, par exemple, justement, je voulais utiliser ces choses-là, ça...
C'est accessible à tout le monde.
C'est documenté, c'est ça, la start-up en elle-même, ce qu'elle fait, c'est ça, son produit, c'est ça, non?
Ouais, c'est un catalogue de données ouvertes, accessible, téléchargeable, en flux direct.
L'API,
exactement. Ouais, on a, exactement.
J'ai vu qu'il y a eu une question, d'ailleurs, je crois que c'était aujourd'hui, hier ou aujourd'hui, non, sur les API de Datagoo.
Oui, enfin, de l'équipe. Il y a un incubateur des API, donc en fait, un des services d'Data Lab aussi qui crée des API services publics. Une partie sont accessibles à tout le monde, une autre sont réservées aux administrations. Enfin, il y a différents niveaux d'habilitation. Encore une fois, je ne suis pas du tout expert des API, mais du moins, c'est ce que j'en ai compris.
Ça, c'est un sujet qu'on traitera.
Et effectivement, toutes celles qui sont ouvertes peuvent être réutilisées. Et c'est vraiment le but, quoi. Mm. C'est vraiment le but.
Non, mais c'est un sujet qui est passionnant. Enfin, nous, on prévoit un jour ou l'autre, j'arrête pas de le dire, mais on va faire une formation là-dessus. Et dans ma liste, d'ailleurs, j'ai Victor... Du coup, qui est un expert sur ce sujet. Enfin, si j'ai bien compris, je me souviens plus exactement quel est son rôle, mais
c'est un des membres de l'équipe de API.
Et donc ça, j'aimerais bien vraiment qu'on fasse des choses, illustrer, tu vois, cette formation avec des exemples, évidemment, là, qui sont quand même vraiment des exemples. Et puis, comme tu disais, c'est un peu ça qui a démarré tout, quoi, avec Datagoo, cette démarche, la transparence. Enfin, c'est pareil, c'est des directives, non? C'est une obligation maintenant pour les États de partager un certain nombre de choses.
Oui, le code source d'une application doit être rendu public. Il y a plein de normes. Mais ouais. Bon, ces normes, elles sont importantes, elles guident. Mais dans les faits, ouais, on a la culture du réemploi, la culture de la transparence, de l'open source. Tu parlais d'EIG, Talab, tout ça, c'est notre culture. C'est vraiment une culture qu'on partage.
Ouais. Ok. Bon, écoutons. Pas le temps de creuser sur toutes ces autres choses, mais il y aura d'autres épisodes et puis tu me recommanderas aussi d'autres gens chez vous pour continuer à parler de tout ça. Toi, tu fais un peu de no-code aussi, tu nous disais au tout début à côté. Je sais pas si tu veux nous parler un petit peu de tes projets, de tes side projects.
Ouais. Moi, le no-code, en tout cas pour mes side projects, c'est juste... En fait, quand j'étais intrapreneur et que les devs me présentaient le vendredi ou le mercredi des améliorations qu'ils avaient fait en front ou autre, moi j'avais l'effet waouh, quoi. Mais je pense avoir l'air bête de dire ça aujourd'hui, mais vraiment c'était, j'en revenais pas, quoi. Je pense que j'avais pas compris qu'on pouvait faire ça si vite. Et depuis que je suis plus dans une équipe avec des devs, puisque je m'occupe plus de produits au sens propre, je pense que c'est un truc qui me manquait. Et via le no-code, j'ai compris que je peux faire moi-même ça. Je peux moi-même, hyper facilement. Donc, c'est vraiment le débutant là qui parle, mais pour ceux qui découvrent, allez-y, quoi. C'est comme aller courir quand il fait froid. Le plus dur, c'est de mettre ses baskets. Une fois que tu es dehors, tu cours. Mais là, c'est pareil. Prenez n'importe quel outil no-code dont on vous parle. Peut-être pas Bubble parce que c'est compliqué. Ouais. Mais prenez les autres et allez-y. Créez-vous un compte. La plupart sont gratuits et vous allez pouvoir faire plein de choses. Et donc, moi, en l'occurrence, c'est le vélo parce que c'est un thème qui m'intéresse.
Donc, t'as une asso déjà depuis un moment.
Ouais, c'est un blog, c'est vraiment un blog. Ouais. C'est juste un blog avec quelques microservices, mais gratuits, quoi, en no-code. Okay. Donc un truc moche, mais utile et utilisable, et ça c'est génial, c'est un Google Form où tu réponds à quelques questions, on te dit le vélo adapté à ton besoin.
Okay.
Et en Google Form, moi je trouve ça très moche, mais je demande à la fin est-ce que vous recommanderiez cet outil, et on a un taux de 75% de gens qui trouvent ça très bien, donc je vais pas aller au-delà, même si j'aimerais bien utiliser d'autres solutions, mais... En fait, je n'aurais pas besoin. Et un autre truc que j'ai fait...
Comment vous faites la recommandation, juste par curiosité?
En fait, il n'y a pas de recommandation. Ils pensent qu'il y a un algorithme, mais c'est juste que c'est des arbres de décision. C'est juste un arbre de décision.
D'accord, c'est donc... les questions te guident...
Exactement.
Enfin, t'emmènent dans une réponse, quoi.
Ouais. Okay. Ouais. Donc, il n'y a pas vraiment de reco, parce qu'à la fin, on leur demande de valider. Et s'ils ne valident pas, on ne saura jamais qu'ils ont utilisé l'arbre de décision. Donc, c'est que ça. Mais dans les commentaires, on a des gens qui nous mettent super algo ou bon, bah, c'est la magie du web. Et sinon, Glide, j'utilise beaucoup Glide. C'est hyper facile pour moi d'utiliser Glide. Je trouve ça très visuel, très graphique en plus. Et il y a le petit côté, se dire qu'on a fait une app mobile alors que en vrai, c'est une web app et que j'ai rien fait d'autre. C'est assez cool.
Ouais.
C'est assez cool.
D'ailleurs, tu me disais avant que tu vas former des gens un peu.
Oui, alors je vais, pour être très précis, je vais les aider à enfiler leur paire de baskets. plus que les former. Mais ça, ils ne le savent pas encore. Donc, je leur ai vendu 60 minutes pour créer une application sur mobile sans coder.
Alors, 60 minutes avec Glide, tu peux en faire 3 même des applications.
Voilà, on sait, toi et moi, que c'est possible. Mais déjà, je veux leur montrer que partez d'un template, remplissez des données de votre choix et ça y est, tu l'as fait. Je ne t'ai pas promis qu'elle était utile, utilisable, mais tu l'as fait. Maintenant que tu sais que c'est rien, maintenant amuse-toi et va creuser pour ton besoin, pour tes utilisateurs, pour tes usagers. Et ça devient possible, mais il faut juste ce déclic.
Ah non, mais Glide, pour ça, c'est super, ça, justement, ça donne ce déclic. Et puis après, la fois d'après, tu peux leur montrer Zapier pour déclencher des choses quand il y a une nouvelle ligne dans le Google Sheets. Et puis après, après c'est fini, quoi. En plus, d'ailleurs, je ne sais pas si tu as un peu creusé dans Glide toutes les actions, etc., tu vois, mais moi, je trouve qu'ils ont vachement poussé. Enfin, c'est à la fois toujours super sur l'évangélisation. Enfin, nous, pareil, on montre au début des webinaires, ça fait toujours cet effet waouh. Mais en plus, je trouve que ça devient extrêmement puissant, quoi. Enfin, on peut faire justement des algorithmes bon, un peu simples, mais des enchaînements d'actions, des ifs.
C'est ça. Mon but, là, ce mois-ci, c'est de faire un quiz bêta sur Glide. En gros, pour l'embarquement, pour l'acculturation, c'est Julien de Staku qui a fait une vidéo là-dessus. Donc, je vais essayer de m'en inspirer, essayer de faire quelque chose, puis on verra.
Ok. Bon, super, bah, tu nous partageras ça. Ça fera écho justement avec cet épisode. Du coup, est-ce que, pour finir, peut-être un peu la vision, enfin, je sais peut-être pas la vision, mais ce que tu vois venir, tu vois, un peu sur, je sais pas, j'allais dire sur votre feuille de route, enfin, c'est un peu comme ça que je pose la question d'habitude, tu vois, dans les projets où ça s'applique moins, mais par rapport au no-code, est-ce que tu penses que c'est plus, est-ce que tu vois déjà des initiatives par rapport à ça au sein de BetaGouv,
De plus en plus, la question se pose, et ça, c'est nouveau, de se dire, est-ce qu'on démarre tout de suite du dev pur ou est-ce qu'on part en no-code?
Peut-être une question d'ailleurs, comment réagissent un peu les devs justement par rapport à ces choses-là? Comme on disait, il y a quand même une forte culture technique dans l'équipe. Open source aussi, on sait que malheureusement, il n'y a quasiment aucun outil no-code open source. Enfin, j'imagine que ça suscite des discussions, ça.
Alors, pour l'anecdote, Estelle est la dev avec qui je bossais sur mon produit à la Cour des comptes, qui a rejoint Beta aussi. Et un jour, je lui parle d'Airtable, je lui dis, mais tu pourrais faire ça comme ça? Et elle me regarde. Enfin, elle en avait entendu parler, mais elle ne savait pas vraiment de quoi je parlais, en fait. Et donc, le no-code, moi, naïvement, je pensais que c'était connu de tout le monde, mais pas tant que ça. Non, et donc, je ne pourrais pas m'exprimer à la place de tous les devs de Beta, mais je ne suis pas certain que... Enfin, ce soit si clair que ça, de quoi qu'est-ce qu'on peut faire avec ça.
C'est vrai que c'est une bonne remarque parce que bon, tout le monde pense que ouais, les devs ils détestent le no-code, qu'il y a une guerre et tout. En fait, déjà, c'est vrai que la vérité, c'est qu'il y en a plein, juste ils savent pas. Et c'est pour eux, c'est pas un truc, quoi. Il n'y a pas de. Oui, il y a des outils quelque part, c'est pas un sujet, quoi. Enfin, ils sont même pas au courant, quoi, que c'est une tendance qui, bon, nous on trouve, émerge. Et c'est intéressant ça aussi.
Voilà, mais elle savait ce que c'était, mais en gros, c'était pas très clair. Ensuite, on a aussi des apprentissages peut-être négatifs, du type finalement, faire en no-code, ça a coûté du temps de coaching ou je sais pas qui, c'était pas un développeur qui l'a fait. Et on se rend compte qu'on a fait finalement plus un POC qu'un MVP. Et Beta, on a vraiment l'obsession de. Il n'y a pas de POC en fait. Tout ce que tu fais, c'est en ligne, c'est tout de suite, tu perds pas de temps. On évite
ça. Est-ce que tu veux expliquer la différence?
Comme moi, je l'entends. Ouais. On va plutôt dire
après,
comme ça.
C'est des mots, hein, mais.
Ouais.
Mais c'est un vrai truc. Hein, et je pense que comme tu l'entends, c'est bon, en tout cas une bonne manière de le voir. Quoi.
Comme je l'entends, c'est. On va pas faire. En fait, on fait pas de tests. Il y a la différence entre tester et expérimenter. D'après moi, elle n'est pas du tout académique ma définition, mais. Faire un truc éphémère juste pour voir, moi ça m'intéresse pas. C'est de l'argent.
Ça c'est le POC, donc proof of concept.
Ça c'est le POC, exactement.
On peut dire aussi un prototype peut-être, quoi, je sais pas.
Oui, on pourrait dire un prototype. C'est ça, pour moi, en tout cas à bêta, on va éviter de le faire. Ou alors, c'est tellement minimaliste que c'est suffisant. Une feuille blanche, moi le POC dit contrôle, c'était en fait des feuilles A4. Il y avait 30 personnes dans une salle. Futurs utilisateurs, on leur a fait dessiner avec un atelier type et on n'est pas allé au-delà. Et ces feuilles A4 étaient suffisantes. Et ensuite, quand on a codé pour faire le MVP, donc qui est une première version de la solution, je ne sais pas comment le dire autrement, que dans la vraie vie. Quoi.
Qui est fonctionnelle. Quoi. C'est
voilà,
ça, c'est...
vraiment. Qui...
Tes feuilles, elles n'étaient pas fonctionnelles. Elles démontraient peut-être un peu l'intention, mais elles n'étaient pas fonctionnelles. Quoi. Alors que le MVP, il est complètement fonctionnel et il donne la valeur attendue, même si elle est minimale. Mais il y a quand même de la valeur, quoi.
C'est ça.
Parce qu'il y a des choses fonctionnelles, mais qui sont enfin fonctionnel, pas vraiment quoi. Enfin,
en tout cas, c'est voilà, le but c'est de rendre tout de suite des choses concrètes et utiles, et utilisables et voilà, changer les choses. Donc c'est un peu la différence. Et je pense que certaines équipes ont démarré en no-code avec en faisant plus un POC. Et du coup, le coût de OK, on a vu que ça marchait, mais on vient de voir les limites et on pouvait pas les anticiper. Il y a un coût de rattrapage, de qui peut être frustrante, sachant que parce que notre mode de fonctionnement est vraiment d'avancer tout de suite avec du code en dur et de le modifier s'il faut parce que c'est l'open source, c'est tout ça. Donc il y a cet apprentissage là. En revanche, quand tu grossis en termes de communauté, c'est hyper, c'est super quoi. Moi, j'ai une collègue Valentine, elle a fait tout le process de formation de bêta en no code. Tu proposes une formation, les gens s'inscrivent. Tu vois les templates, enfin tout est en no-code.
C'est intéressant parce que ça c'est le volet no-code, outillage interne, on va dire. Tu vois, nous c'est celui qu'on porte beaucoup en tant que contournement, c'est celui dans lequel on croit le plus. Tu vois, c'est bien le no-code pour faire des produits. Ça c'est un volet, mais en fait, moi je trouve qu'il y a encore plus de gains vraiment à s'outiller soi-même, etc. À pas faire des choses pour des clients, enfin pour des utilisateurs finaux, mais pour soi-même. Enfin, on est soi-même l'utilisateur final, mais donc.
Ouais. Donc, tu me posais la question de la suite. Je pense qu'il y a un travail d'acculturation, de se poser la question. Et probablement, de la même manière que ça se développe dans le secteur privé, grand compte ou start-up ou PME, il va se passer la même chose. Chez nous, il n'y a pas de raison. On va se poser les questions à chaque fois. Et les questions que tu posais sur le RGPD, l'accessibilité, on va apprendre de ce qui se passe ailleurs. Et c'est pour ça que c'est utile qu'on soit plusieurs dans cette communauté No-Code France aussi, au sein de Beta, pour garder un œil là-dessus et pour être attentif et être capable de recommander pas mal de choses.
Et pour partager aussi dans l'autre sens,
bien sûr.
Tout ça, tu vois ce que tu me dis, tu vois, moi je peux te dire déjà, je le sais, c'est malheureux, mais pas assez de gens, trop peu de gens qui s'intéressent au sujet de l'accessibilité dans le No-Code par exemple. Je m'inclus aussi un peu là-dedans malheureusement, mais donc vous, tout ce que vous allez avoir, vous allez pouvoir partager aussi dans l'autre sens, ça sera hyper intéressant quoi.
Ouais. Et puis ça, j'y avais pas pensé, mais peut-être qu'un jour, on verra sur le site de Beta dans la rubrique emploi qu'on recrute un dev ou pas avec une stack no code. Voilà, c'est pas le cas, c'est jamais arrivé. Mais peut-être que 2021 est l'année du premier recrutement maker no code.
Non, à mon avis, tu vois, vous pourriez avoir deux choses. C'est soit des, par exemple, développeurs Bubble, développeurs Webflow qui viendraient compléter vos équipes de dev. Et puis certains projets démarrés en Bubble, parce que c'est tout à fait capable de faire certains, à mon avis, certaines des startups. Après, pas en open source, etc. Donc ça, c'est là où il peut y avoir un peu... Mais à mon avis, vous pouvez aussi avoir peut-être un animateur plus spécialisé, un co-animateur, sur justement cette question d'outillage interne, tu vois, pour vous aider à continuer à scaler, parce que j'imagine que là, ça ne va pas s'arrêter, quoi.
Non.
Enfin, on n'est pas dans une blitz scale, comme on dit, enfin, une hyper-croissance, mais bon, vous allez continuer, donc vous allez devoir continuer à vous outiller. Là, peut-être que tu le fais toi, mais tu ne pourras pas toujours, et peut-être que si vous avez quelqu'un de dédié à ça, tu vois, ou alors des transverses, tu vois, qui va outiller les DevOps, enfin, pas les DevOps, les BizDev de... Enfin, des autres,
ouais.
Quoi.
Après, le risque, c'est les goulets d'étranglement. Ça, c'est aussi notre culture. On va éviter d'avoir une personne qui sait tout parce qu'elle va se noyer.
Ouais.
Et on va trop s'appuyer sur elle. Donc, vaut mieux qu'on sache tous un petit peu ou qu'on sache où trouver l'info et ce sera plus utile. Mais je te rejoins sur la partie opérationnelle des équipes. C'est là où, à mon avis, la forte valeur ajoutée du no-code dans nos équipes, c'est ça. Quand je te parlais des bizdev, c'est aussi ça, en réalité. C'est vraiment là-dessus qu'on gagne du temps et qu'on partage plus les templates et tout ça. Donc, peut-être là-dessus que ça va se développer.
Ouais, ça peut être quelqu'un qui anime ça justement de manière transverse, récupérer auprès de tous les bizdevs les bonnes pratiques, no code, enfin templétiser peut-être, tu vois, justement pour. Parce qu'un bizdev peut-être dans une équipe va pas avoir le temps de faire le template qui va bien, lui il a appliqué à son truc, mais peut-être qu'il y a quelque chose à faire. Bon, je sais pas, là, je donne des idées.
Ouais.
Mais on verra, tu nous tiendras au courant.
Et on peut t'inviter pour nous en parler aussi.
Bah écoute, pourquoi pas, avec plaisir. Hein. Maintenant que j'ai bien compris, en plus j'utiliserai bien les bons mots et tout, je dirai pas de bêtises, ce sera très bien. Non, bah avec plaisir. Et bah écoute, merci. Alors j'ai quand même une dernière question qu'on pose, tu vas pas y échapper, on pose à tous les invités. Bon, tu peux inventer quelque chose, ou ça peut être quelque chose sur lequel tu travailles, mais donc si tu as un side project à faire avec des outils no code, qu'est-ce que ça serait et comment tu le ferais?
Allez, je vais l'inventer, je sais pas, une solution qui permet de construire ton vélo idéal. Tu vois, ça va taper dans, je sais pas, dans les, je sais pas si ça existe des API de sites comme Decathlon ou je sais pas quel fabricant de vélos différents.
Des pièces de vélo.
Et tu crées ton, ça te crée ton composant parfait. Tu veux tel type de vélo, tu veux une roue comme ça, tu veux un panier comme ceci. Et ça va juste chercher les bons éléments où tu as besoin et potentiellement tu t'appuies sur buy et puis tu l'achètes.
Et comment, tu le ferais?
Je sais pas.
Encore.
Je sais pas du tout. Et je pense que je le ferai jamais. Mais pour répondre à ta question, c'est, ça pourrait être cool.
Ouais. Non, c'est une bonne idée. Je pense que bah, le problème, il va être au niveau des données, peut-être. Quoi. Ouais. C'est avoir tous ces catalogues de pièces et tout. Par contre, après, le reste.
Et pour l'anecdote, c'est un collègue Maël qui commence à faire ça. Mais pour créer son propre. Il documente pour créer son vélo no code, open source, pardon.
Ok.
Voilà.
Ouais, peut-être pourra dériver justement un autre projet. Super. Eh ben, écoute, merci beaucoup pour tout ça. C'est hyper intéressant. Où est-ce qu'on peut te suivre? Alors, j'ai noté plein de liens, donc je donnerai plein de choses, mais toi, on va dire plus personnellement, ou même les trucs un peu privilégiés, tu avais évoqué là pour Betagouv, le Twitter, etc. Mais...
Moi, vous pouvez me retrouver sur LinkedIn, c'est probablement là qu'on parle le plus d'échanges. Et puis le compte LinkedIn de Beta, je pense que c'est le plus facile.
Ok. Et puis bah, sur le Slack de notre
Sur le Slack de notre France,
avec tes collègues. Mais en tout cas, voilà, quand je posterai, bah, on pourra continuer la discussion comme d'habitude sur les channels dédiés. Et bah, merci beaucoup.
Merci à toi.
Et puis à très bientôt alors.
Salut.
Salut. Ah ouais, vous avez écouté jusqu'au bout. Merci beaucoup, ça fait plaisir. J'espère que ça vous a plu surtout. Alors si ça vous a intéressé, ce que je peux vous proposer, c'est de rejoindre le Slack de NoCode France et le channel podcast Contournement pour qu'on continue cette discussion. Vous me disiez ce que vous avez pensé de l'épisode. Et puis si vous avez des questions, pourquoi pas. Voilà, on peut continuer à discuter de tout ça. Et si ça vous a donné envie peut-être de maîtriser un petit peu plus ces outils NoCode, si c'est pas déjà le cas, hein, peut-être que vous êtes déjà un expert, eh bien, n'hésitez pas à aller voir notre site contournement.io. Vous verrez qu'on propose différentes formations pour que vous deveniez vous aussi un expert ou au moins que vous puissiez maîtriser ces outils pour lancer vos propres projets. Voilà, je vous dis à très bientôt.